Avoir raison avec Élisée Reclus, Marie-Lise de Saint-Salvi.
Géographe, anarchiste, écrivain, pédagogue, écologiste, féministe, végétarien, autant de mots qui ne suffisent pas à présenter Élisée Reclus. Alors, voici son portrait. Sur une photo de Nadar de 1889, il pose. Il a 59 ans, la barbe touffue et les cheveux gris, les yeux très clairs, presque blancs et grands ouverts. Il regarde loin. Voilà peut-être le secret de son œuvre, grandiose et méconnue. Malgré une renommée mondiale de son vivant, Élisée Reclus meurt rejetée par ses pairs géographes en raison de ses engagements politiques. Sa pensée anarchiste est elle aussi tombée dans l'oubli. Fidèle à ses convictions, il n'a lui-même jamais cherché la postérité. Alors, pourquoi l'exhumer aujourd'hui ? Parce qu'Élisée Reclus est avant tout un penseur humaniste. Il croit en tous les hommes, qu'ils vivent dans des villes industrielles ou dans des terres reculées. Il a foi en leur capacité au progrès social et au respect de la nature. Mais Élisée Reclus n'est pas un naïf, il est optimiste. Et s'il croit autant en l'homme libre, c'est parce qu'il l'a étudié et il est allé à sa rencontre partout dans le monde. Dans ce premier épisode d'Avoir raison avec Élisée Reclus, je vous propose de découvrir le voyageur, celui qui, à 21 ans, part s'exiler en Angleterre et découvre l'Irlande et les Amériques. Alors, comment un petit aspirant pasteur de Gironde est-il devenu l'un des plus grands géographes de son époque ?
Une toute jeune maison d'édition, Zulma, vient d'avoir la bonne idée de rééditer l'étonnant récit d'Élisée Reclus, Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe. Élisée Reclus, pour nous tous, c'est au mieux un nom de rue. Et pourtant, ce bonhomme hors du commun vaut d'être mieux connu.
Bonjour Federico Ferretti.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géographie à l'Université de Bologne et vous avez notamment participé à l'ouvrage collectif Élisée Reclus, les 100 hameaux, publié en 2024 aux Presses du Réel. Dans ce premier épisode, la tâche n'est pas facile puisqu'il s'agit de nous présenter Élisée Reclus. Alors, je vous propose de commencer par les origines. Dans quelle famille grandit Élisée Reclus ?
Bien sûr. Alors, Élisée Reclus naît en 1830 à Sainte-Foy-la-Grande dans les milieux d'une famille qui est très insérée, notamment dans les réseaux du protestantisme du Sud-Ouest. Son père est un pasteur calviniste très intransigeant. Et notamment en 1831, il déménagera de Sainte-Foy à Orthez parce qu'il refuse de faire partie de l'église concordataire, il refuse son traitement public et donc il va travailler à son église. Là, c'est des premiers éléments, si on veut, des intransigences et des anticonformismes qui vont sans doute marquer la trajectoire d'Élisée Reclus. Et aussi, il faut commencer à les rappeler dès maintenant de son frère aîné Élie Reclus, qui sera un peu son collaborateur du point de vue à la fois scientifique et politique pendant toute leur vie, on peut dire. Alors, dans l'éducation d'Élie et Élisée Reclus, il y a déjà des éléments qui seront déterminants. Par exemple, Élisée est envoyé en 1842 à Neuwied, en Allemagne, chez le collège des frères Moraves, un autre groupe protestant, dissident et intransigeant, où, par exemple, il se forme dans un milieu très cosmopolite et multilingue. Il apprend là l'allemand, l'anglais, des éléments de néerlandais, il étudie les latins, il apprendra ensuite des autres langues telles que l'italien et l'espagnol, donc il sera quand même un intellectuel cosmopolite et multilingue à partir de sa formation. Puis il reviendra en France dans les années suivantes et il sera, pendant que les frères Élie et Élisée Reclus sont encore des étudiants de théologie destinés au sacerdoce, de quelque manière que les événements de 1848 et 1849 éclatent en toute toute l'Europe. Donc, c'est des mouvements révolutionnaire qui voit l'essor de la bourgeoisie contre l'ancien pouvoir aristocratique, mais qui commence à voir aussi l'essor des classes ouvrières. Alors, d'après leur mémoire et une série aussi de témoignages, notamment de leur sœur, les frères Élie et Élisée Reclus commencent à suivre cet événement et à prendre une conscience sociale. Donc, je cite des mémoires de leur sœur Loïs Reclus. Dès lors, ils avaient choisi leur parti avec les pauvres, les malheureux. Fin des citations. Donc, cela implique aussi des inquiétudes, des ruptures avec la religion même. Ils seront expulsés en 1849 du séminaire de Montauban à la suite d'une fuite et de ce qu'ils appelaient des opinions politiques socialisantes. Donc, cela anticipe un peu la rupture aussi avec la religion. Ils vont embrasser ensuite l'athéisme et refuseront de devenir pasteurs.
Oui, parce que je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut rappeler, c'est que Élisée Reclus vit dans une famille nombreuse. Ils sont pas moins de 14 frères et sœurs et c'est un mouvement collectif. S'il n'est pas tout seul à prendre leur indépendance vis-à-vis de l'éducation parentale.
Absolument. C'est un mouvement collectif qui involve une grande partie des membres de la frérie Reclus. Et il faut aussi rappeler, ils étaient 5 frères qui ont fait tous pas mal de choses. Donc, en dessous d'Élie et Élisée, il y avait Onésime, qui a été lui aussi géographe, Paul, qui a été chirurgien, Armand, qui était marin, a participé à la conception du canal de Panama, mais ils avaient aussi 7 sœurs qui avaient des trajectoires pas banales, étaient traductrices, étaient institutrices. Il y a des travaux, notamment d'historiens du protestantisme du Sud-Ouest aussi, qui concerne les sœurs Reclus. Je pense que d'autres travaux devraient suivre. En tout cas, il y aura aussi dans les années suivantes aussi des périodes de difficultés, des discussions très tendues dans cette famille au sujet de ces choix très radicaux d'Élisée et Élie.
Dans cette famille de protestants, Élisée et éduqué pour devenir pasteur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui fait qu'il préférera la carrière de géographe?
Notamment pour ce qui est de la géographie, l'événement marquant, c'est un voyage. Donc on est déjà dans la dimension du voyage, de la découverte d'autres lieux qu'il fera à l'université de Berlin en 1851. Alors l'année avant, il était revenu à Neuwied pour enseigner chez les frères Moraves. Il part un peu dessous par cet environnement où il y a des châtiments corporels. Il se plaigne aussi des favoritismes qu'ils font aux élèves plus riches. Et là, il découvre l'université de Berlin où il ne suit que des cours de théologie. Il suit notamment les cours de géographie de Karl Ritter. Alors, Karl Ritter restera sa grande inspiration. Il a été un peu l'inspiration de toute la géographie, si on veut dire, critique du 19e siècle en Europe. Avec un autre géographe allemand de la même génération, Alexandre de Humboldt. Alors, pour ce qui est de Ritter, il y a les souvenirs là, des Reclus que je cite encore une fois. Il disait notamment que Ritter avait retirer la géographie de la misérable ornière des nomenclatures, il nous a fait étudier avec le même esprit l'histoire de la Terre et celle des astres qui nous a enseigné la vie de notre globe. Fin de citation. Donc, c'était une géographie vivante, une géographie qui s'occupait des interactions entre les êtres, ce qu'on appelle l'humanité, ce qu'on appelle la nature, entre les phénomènes géographiques et la dimension aussi historique et critique. Reclus et impressionné par le climat de liberté qui règne à l'université de Berlin, paradoxalement, parce que la Prusse n'était exactement pas l'un des endroits les plus avancés du point de vue politique. On est au lendemain des révolutions de 48 et 49. En France, il y a encore jusqu'à la fin de cette année la Deuxième République. Et effectivement, Reclus raconte aussi de quelqu'un à Berlin qui lui offre du travail à condition qu'il ne soit pas républicain. Et bien alors Reclus doit refuser, bien évidemment. Cela donne un peu l'idée du contexte de ce qui se passe, mais aussi du fait que la découverte de l'université en tant que lieu ou en quelque manière plus de liberté sous la forme de liberté académique et liberté de recherche est permise, peut en effet l'inspirer. Et donc il restera un peu marqué par l'expérience de suivre les cours de Ritter et effectivement de vouloir faire de la géographie.
Et donc ce premier cours de géographie à l'université de Berlin, ça sonne comme une révélation pour lui. Comment est-ce que ses parents réagissent quand il leur annonce que finalement il ne sera pas pasteur ?
Au début, c'est un peu la froideur. Il y a des années un peu difficiles, notamment pour les événements dont on va parler dans les années 1850, donc l'exil, etc. Alors, d'après les correspondances, les sources dont on dispose, ce climat commence à être un peu moins entendu dès la fin de la décennie, parce que il faut toujours rappeler les binômes Élie-Élysée. Là, Élie-Élysée rentre de leur exil respectif, il se marie, il commence à avoir une position professionnelle par les publications, le travail intellectuel, etc. Et cela apaise un peu la famille. Mais quand même, au début, il y a quand même une rupture à niveau de la choix d'abandonner la religion et de passer à des idées sociales avancées. C'est en effet ces derniers mois de 1851 qu'on a ce qu'on appelle les manuscrits de Montauban, donc des manuscrits où Élisée Reclus commence à discuter par exemple l'idée de l'anarchie. C'est très célèbre l'aphorisme où il parle de l'anarchie comme de la plus grande expression de l'ordre. Donc là il y a des références à Pierre-Joseph Proudhon, à Anselme Bellegarigue, mais il y a déjà une affirmation de l'anarchie comme un idéal positif. Donc alors il faut dire encore qu'à ce moment-là, Reclus est rentré dans le sud-ouest de France, avait après 3 semaines de voyage avec Élie de Strasbourg à Orthez, en marchant, effectivement, parce qu'il n'avait pas d'autres moyens de voyager. Et un autre événement marquant à ce point-là, c'est le coup d'État de Napoléon III, le 2 décembre.
Exactement, nous y arrivons donc, on est en 1851. Le 2 décembre, Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État. Les frères Reclus se mobilisent pour la République et finissent par fuir en Angleterre.
Le livre qui paraît aujourd'hui, je l'ai commencé il y a bientôt 15 années. Non dans le silence du cabinet, mais dans la libre nature. C'était en Irlande, au sommet d'un tertre qui commande les rapides du Shannon, ces îlots tremblants sous la pression des eaux et le noir défilé d'arbres dans lequel le fleuve s'engouffre et disparaît après un brusque détour. étendu dans l'herbe, à côté d'un débris de muraille qui fut autrefois un château fort et que les humbles plantes ont démoli pierre à pierre, je jouissais doucement de cette immense vie des choses qui se manifestait par le jeu de la lumière et des ombres, par le frémissement des arbres et le murmure de l'eau brisée contre les rocs. C'est là, dans ce site gracieux, que naquit en moi l'idée de raconter les phénomènes de la terre, et sans tarder, je crayonnais le plan de mon ouvrage. Les rayons obliques d'un soleil d'automne doraient les premières pages et faisaient trembloter sur elles l'ombre bleuâtre d'un arbuste agité. Depuis lors, je n'ai cessé de travailler à cette œuvre dans les diverses contrées où l'amour des voyages et les hasards de la vie m'ont conduit. J'ai eu le bonheur de voir de mes yeux et d'étudier à même presque toutes les grandes scènes de destruction et de renouvellement, avalanches et mouvements des glaces, jaillissements des fontaines et pertes des rivières, cataractes, inondations et débâcles, éruptions volcaniques, écroulements des falaises, apparitions des bancs de sable et des îles, trombes, ouragans et tempêtes. Ce n'est point seulement au livre, c'est à la terre elle-même que je me suis adressé pour avoir la connaissance de la terre. Je puis le dire avec le sentiment du devoir accompli. Pour garder la netteté de ma vue et la probité de ma pensée, j'ai parcouru le monde en homme libre. J'ai contemplé la nature d'un regard à la fois candide et fier, me souvenant que l'antique Freya était en même temps la déesse de la terre et celle de la liberté.
France Culture, Avoir raison avec Élisée Reclus. Marie-Lise de Saint-Salvi.
Nous venons d'écouter un extrait de La Terre, paru aux éditions Hachette en 1867, dans lequel Élisée Reclus nous décrit la rivière Shannon en Irlande. Federico Ferriti, d'après cet extrait, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est à ce moment-là qu'il commence ses premiers travaux de géographie.
Bien sûr, et moi j'aime vraiment beaucoup cet extrait parce qu'il est très beau stylistiquement et c'est quelque chose qui est important à considérer lorsqu'on parle d'Élisée Reclus parce que on est dans ce qu'on a appelé sa géopoétique qui est une partie constitutive de son idée de la géographie, idée de la géographie comme pédagogie parce que s'il prend soin à la belle écriture, c'est aussi parce que il a des soucis pédagogiques de s'adresser à tout le monde et pas uniquement aux spécialistes. Il n'y a pas distinction entre des ouvrages pour le grand public et des ouvrages pour les spécialistes. Il faut parler à tout le monde, donc c'est une géographie qui doit enseigner. C'est une géographie qui s'est fait aussi par la pratique de la marche, la pratique du voyage, la pratique de la découverte personnelle. Lorsqu'il dit dans cette introduction à la Terre, j'ai parcouru le monde en homme libre, et c'est exactement ça son idée de la géographie qui est aussi quelque chose qui sert à l'émancipation et à la prise de conscience. Et on le voit bien dans son autobiographie et ses voyages.
Mais justement, cette prise de conscience, elle est notamment permise par ce premier exil qu'il fait en arrivant en Angleterre. Et c'est aussi là qu'il prend conscience d'autre chose que la géographie. Et je veux parler des rapports de domination.
Exactement ça. Alors, les séjours à Londres en 1852 est très important pour prendre conscience de ce type de contradictions sociales que vous avez mentionnées. Il est très important parce qu'à Londres, il y a aussi beaucoup d'autres socialistes français exilés avec qui les frères Reclus prennent des contacts. Donc c'est quelque chose qui contribue ultérieurement à leur formation politique. Et puis il y a la formation scientifique. scientifique. Alors, en Grande-Bretagne, les sciences naturelles sont dans les années qui précèdent l'évolutionnisme, qui sera aussi un mouvement très important dans l'idée que les géographes anarchistes vont ensuite élaborer de l'entraide. Et il y a à Londres un monde intellectuel très effervescent. Il y a les grands globes de James Wilde qui va inspirer les grands globes que Reclus va projeter presque 50 ans après pour l'exposition universelle de Paris. Et puis il y a les difficultés matérielles, les difficultés de la vie d'exil qui poussent Élisée Reclus vers l'Irlande. Donc il va habiter là jusqu'à la fin des 1853. Il est notamment régisseur dans une ferme à Kippur Park dans le comté de Wicklow pour compte d'un grand propriétaire absentéiste. Et alors là, c'est aussi une partie de sa prise de conscience des contradictions sociales, aussi dans le monde agricole, qui n'est pas le monde agricole qu'il a connu jusqu'à ce moment, car là, il y a le problème de la grande propriété et du colonialisme, car l'Irlande, c'est un pays colonisé, donc Reclus commence aussi à être sensible aux questions coloniales et plus en général aux questions de ce qu'on appelle aujourd'hui la géographie sociale, donc la géographie de la pauvreté. L'Irlande se trouve au lendemain de la grande famine dans une situation sociale très problématique et avec des structures agricoles et sociales que Élisée Reclus estime très archaïques. Et donc, à partir de certains moments, il faudra aussi penser à d'autres solutions et à des autres départs pour d'autres voyages.
Et donc, justement, cette position qu'il tient dans la gestion d'une exploitation agricole en Irlande, ça ne lui plaît pas et il va décider de partir plus loin encore. Et c'est là qu'il arrive aux États-Unis. Et plus précisément, il va s'installer en Louisiane où il deviendra précepteur.
Exactement. Il part de Liverpool notamment. Il arrive en 1854 à la Nouvelle-Orléans où il cherche évidemment du travail. Alors la Nouvelle-Orléans est une région qui est encore en grande partie francophone à ce moment. Il y a toute une série de réseaux de connaissances que Reclus met en place et il arrive à s'installer comme précepteur près de la plantation Fortier, à une cinquantaine de kilomètres de la Nouvelle-Orléans. Alors là, sur la période états-unienne d'Élisée Reclus, je voudrais aussi citer un collègue et ami qui a fait des travaux très importants, Ronald Craig, qui nous a quittés il y a 3 ans et qui a notamment observé comme l'expérience des États-Unis a servi aussi à la formation des Reclus pour des analyses sociales qui n'étaient pas limitées aux contradictions économiques et à l'étude des dynamiques du capital. Car là, il découvre un phénomène qui l'agace, c'est notamment l'esclavage qui est encore pratiqué et dont Reclus écrit des pages qui sont très touchantes, très émouvantes. Il est choqué par la vue du marché à esclaves de la Nouvelle-Orléans, dont il finalement inculpe une société qui se base en tout cas sur les profits et sur l'exploitation. Il se considérera à partir de ce moment un avocat, même en Europe, même quand il rentrera en Europe, des abolitionnistes américains, et il prendra aussi conscience du problème du racisme qui sera l'un des points aussi forts de sa proposition politique. Donc il n'y a pas uniquement une oppression de caractère économique, il y a le racisme, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat, il y a plusieurs dominations auxquelles il faut opposer ce qu'aujourd'hui appelle une pluralité de libertés, et ça c'est la partie importante de cette période. Là aussi, la situation en Louisiane et notamment l'esclavage les dégoûtera et il repartira encore.
Mais donc là, on comprend bien, il est extrêmement choqué par le sort réservé aux prolétaires en Europe. Aux États-Unis, c'est davantage le sort des esclaves. Pourtant, il va ensuite partir en Amérique latine et là, il va monter un projet qui semble un peu contradictoire avec tout ce qu'on vient d'entendre. Il veut monter une colonie.
Exactement. Alors là, il faut évidemment bien s'entendre sur les mots. Ce n'est pas une colonie dans le sens du colonialisme d'État, c'est plutôt de l'immigration prolétaire, et il veut évidemment là travailler avec ses bras. Il faut d'abord rappeler que ses voyages à la Nouvelle-Grenade, donc l'actuelle Colombie, est aussi inspiré par les voyages d'Alexandre de Humboldt, qui seront aussi l'une des inspirations des géographes et aussi des tendances progressistes, de quelque manière, pendant l'Europe du 19e siècle. Même parce que l'Amérique latine à l'époque c'était un lieu de république, donc plusieurs de ces pays s'étaient décolonisés, s'étaient libérés des empires ibériques qui les dominaient. Donc il y avait évidemment des intentions politiques qui dérangeaient.
Merci beaucoup, Federico Ferriti. Je rappelle que vous êtes professeur de géographie à l'Université de Bologne et vous avez notamment participé à l'ouvrage collectif Élisée Reclus, les 100 hameaux, publié en 2024 aux Presses du Réel. Parmi vos ouvrages, je veux également citer Élisée Reclus, une géographie nouvelle, paru aux éditions du CTHS en 2014. Et un grand merci à Emmanuel Ruben pour son temps et son aide précieuse. Le texte que vous avez entendu était lu par Nicolas Berger. À la réalisation, c'était Daphné Leblon. Et à la technique, c'était Ludovic Auger. Dans le prochain épisode, Élisée Reclus est de retour à Paris, où il se consacre pleinement à la géographie et à la politique. En bref, nous parlerons de géopolitique. Et tout de suite, on se quitte sur une chanson de Jean Ferrat, Mon chant est un ruisseau.
Quand le cœur des humains fera sonner le monde comme un atelier de potier, alors mangez mon chant dans une assiette ronde ornée d'un motif d'oignon bleu. Vous, affamés d'hier, ombres maigres et dures, mon chant est un ruisseau, mon chant est une mure. Dans ce monde incertain, comme barque qui penche, mordez dans mon champ, travailleur. Comme dans le pain blanc, du matin à dents franches, le pain blanc à la fraîche odeur. Vous, affamés d'hier, ombres maigres et dures, mon champ est un ruisseau, mon champ est une mure. Ma patrie de monts et de rivières vertes, moi qui t'invoque à chaque instant, Je suis comme le coq, dressant au ciel sa crête. Je chante et chante tout le temps. Vous, affamés d'hier, ombres maigres et dures, mon chant est un ruisseau, mon chant est une mure. Mon chant est un ruisseau, mon chant est une mure.